Eh bien, merci Antoine. C'est pour moi aussi une grande joie de vous retrouver après un mois d'août qui, j'espère, a été bon pour vous. Je vais prier et on va regarder encore un peu plus en détail cette épître de Philippiens. Seigneur, nous venons devant ta parole en espérant pas seulement y voir des mots, des idées, mais pour y comprendre, pour voir des réalités. Je prie que nous ayons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre et que par ton Esprit Saint, ces paroles ne soient pas juste une lettre, mais soient le son de ta voix et que nous puissions y répondre avec foi. Amen. C'est probablement une des images les plus saisissantes de l'idée qu'on peut se faire en tant d'une communauté. Dans le Seigneur des Anneaux, dans le premier épisode appelé La communauté de l'anneau, dans cette trilogie de Tolkien, on a cette scène de l'arrivée de Frodon et de tous ses compagnons, ses acolytes, à Rivendell, le lieu d'habitation des elfes. Je ne sais pas si ça fait écho avec votre culture personnelle. Dommage pour moi. Mais c'est un moment captivant où en fait on voit ces hommes, ces elfes, ces nains, ces hobbits qui décident de mettre leurs différences de côté, leurs tensions de côté pour s'engager ensemble dans ce périple d'accompagner Frodon pour la destruction de l'anneau. Ça, c'est une image pour moi qui est puissante. Une communauté unie pour accomplir un but. Et c'est ce qu'on cette lettre aux Philippiens qui signale le début d'une nouvelle série pour cette rentrée en 6 semaines, série qui aura pour effet, je l'espère, je le prie, c'est ma prière dans la préparation de cette série, de redynamiser, nous électrifier, de nous faire grandir ensemble de ce qui est, d'après la Bible, l'essentiel. L'essentiel de notre existence que je vais définir un peu plus tard. Et ce qu'on voit aussi dans le début de cette lettre, c'est que ça nous pose une question à nous. Et la question, c'est celle que Antoine nous a déjà posée, que je vous ai aussi déjà posée, c'est comment nous sentons-nous en ce début de cette rentrée d'église ou à l'aube d'une rentrée tout court. Peut-être ce mois d'août a été reposant, peut-être pas. Je sais que pour certains, on a vécu des choses difficiles, mais voilà, septembre arrive et avec son flot d'activités, de choses qu'il faut cocher et mettre dans son planning, la vie va vite se remplir. Alors, prenons le temps de nous poser la question, qu'est-ce qui est l'essentiel pour Dieu? Qu'est-ce qu'on devrait viser cette année? Et Philippiens, c'est notre livre de chevet pour répondre à cette question. L'intention de l'auteur est explicitement citée au chapitre 1, verset 27, qui dit la chose suivante. Regardez encore avec moi ce verset du chapitre 1, le verset 27. Voici ce que Paul voudrait voir chez les Philippiens. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Quel est le fardeau de l'auteur de cette lettre de Paul, un des premiers leaders de l'Église chrétienne? L'objectif est de nous convaincre que tous ensemble, nous puissions tenir ferme en visant un but commun. Ça, c'est l'objectif visé. Ça, c'est ce qu'il essaye de nous convaincre en écrivant Philippiens, que nous saisissons ensemble à nouveau d'être unis sur un même front pour un même but, que nous laissions de côté ce qui pourrait nous diviser, être des sources de frustration les uns avec les autres et nous laisser captiver une fois de plus par l'essentiel. Et pour cela, Paul commence, il démarre très fort, dévoilant les sentiments de son cœur. Vous savez comme moi que les médias aiment bien s'attarder sur l'extériorité des gens. On aime bien présenter des célébrités, voir comment elles vivent, où elles vont. Les Kim Kardashian, les Kanye West, les Lionel Messi, etc. Et le point commun entre tous ces portraits dans les médias, dont les médias sont friands, c'est juste de nous présenter ce qui se passe à l'extérieur de ces villas. Mais avec Paul, on est sur une autre planète. Pourquoi ? Parce que Paul nous donne accès non à ce qu'il projette, non aux apparences, non à ce qu'il vit, mais à ce qu'il est intérieurement, à ce qu'il ressent au plus profond de son être. Et ça, c'est plus intéressant pour nous cet après-midi, parce que ça va nous chercher plus loin. Ça va nous chercher plus loin. Il nous montre d'abord l'expression de son affection pour les Philippiens dans cette première prière qui introduit notre lettre. Après avoir formulé ses salutations, versets 1 à 2, il va se mettre à prier. Et il va exprimer sa reconnaissance, versets 3 à 6. Et on va voir dans un instant pourquoi il est reconnaissant pour ses Philippiens. Et puis il y a une requête, un temps d'intercession au verset 9 à 11. Et au milieu, et c'est ça qui m'a frappé les premières fois que j'ai lu ce texte, on a quasiment une parenthèse où Paul dévoile ce qu'il ressent à l'intérieur de lui pour ses chrétiens à Philippe. Relisez avec moi, s'il vous plaît, au verset 7, ce qui est l'ordre du monde intime et personnel de l'apôtre Paul, verset 7. Il est juste que je pense cela de vous tous. Donc, il a témoigné son affection. Tout parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Voyez tous les qualificatifs qu'il emploie ici pour nous exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui pour ses Philippiens. Une affection sincère. Je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ. Je vous porte dans mon cœur. Et ça, c'était ma question cette semaine en regardant ce texte un peu plus en détail. Pourquoi Paul il fait cette parenthèse? Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il ne passe pas des reconnaissances à la requête? Pourquoi il a besoin d'expliquer ce qu'il ressent pour ses Philippiens? Et ma réponse, je suggère qu'en fait, il est en train d'exemplifier ce qu'il voudrait que les Philippiens, et par conséquent, nous aussi, nous ressentions pour l'Évangile, pour son message, pour Paul, mais aussi les uns pour les autres. Paul est en train de modeler sous nos yeux ce qui devrait se passer à l'intérieur de nous. Quel genre de sentiment, de tendresse qu'il devrait avoir les uns pour les autres. Alors je vous le demande, comme je me le suis demandé. À quoi pensez-vous ? À quoi pensons-nous quand nous pensons aux membres de cette assemblée? Quand nous faisons passer leur visage dans notre tête, qu'est-ce que vous ressentez réellement? Est-ce qu'on peut dire sincèrement qu'on se porte les uns les autres dans le cœur? Est-ce qu'on se chérit les uns les autres avec la tendresse de Jésus-Christ? Ou est-ce que l'unité, pour nous, c'est juste un gros mot qu'on fait bien de dire de temps en temps, mais qui ne trouve aucun écho chez nous. Eh bien, si vous avez du mal à répondre à ces questions ou si vous êtes surpris de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous pensez aux autres chrétiens, est-ce que je peux vous inviter à voir comment Paul il arrive à ressentir cette affection ? Quelle est la raison de son affection, de sa tendresse véritable pour ses Philippiens? Eh bien, la réponse est dans la parenthèse qu'on vient de lire, mais aussi dans cette prière de reconnaissance que Paul adresse à Dieu. Versets 3 à 5, regardez la raison de l'amour. Je dis à Dieu toute ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Voilà le mot que l'on attendait, la réponse à notre question. Quelle est la raison de cet amour, de cette joie quand il pense à ces chrétiens? C'est le mot koinonia. On fait un peu de grec cet après-midi, vous les répétez après moi. Koinonia. C'est, veut dire, prendre part, faire un partenariat. C'est ce qui produit chez Paul cette joie, une telle affection pour les Philippiens. C'est leur partenariat dans l'Évangile. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il les connaît tous individuellement très profondément. Je pense qu'il en connaissait quelques-uns très profondément, mais dire tous, je ne sais pas. Ce n'est pas non plus parce qu'il avait la chance de les croiser régulièrement dans la semaine. Mais c'est à cause de la part qu'ils prennent ensemble à cette grande histoire de l'Évangile. Ça, c'est le centre de gravité de leur relation. Ils ont vécu une expérience commune tellement forte que ça a complètement chamboulé les sentiments qu'ils se portent les uns envers les autres. C'est ce qui insuffle cette énergie dans cette relation, c'est cette prise de conscience toujours renouvelée et manifestée de cette participation à une réalité qui les dépasse, qui les transcende et qui va au-delà de leurs préférences, de leurs ambitions personnelles et de leurs différences. Quand il écrit cette lettre, vous savez où il est, Paul ? Ben, il n'est même pas avec eux, il n'a peut-être même pas pour plan pour l'instant en fait, de les voir dans un temps proche pour développer cette affection. En fait, il est en prison, probablement emprisonné à Rome. Il est, comme il nous le dit, dans les chaînes et dans une défense et une présentation de l'Évangile qui fait probablement référence à ce qu'il va faire dans quelques jours, quelques semaines, de défendre dans les vents, les tribunaux, sa croyance, sa foi dans l'Évangile. Et l'affection donc des Philippiens envers Paul, dans ce temps où il est en prison, s'est manifestée concrètement. Il y a eu une visibilité de leur attachement à l'Évangile dans le fait qu'ils se sont mobilisés, qu'ils se sont mis à vouloir soutenir à la fois spirituellement et matériellement Paul grâce à l'envoi d'une personne, Épaphrodite, dont on reparlera certainement. Vous voyez, ce partenariat, cet attachement à cette réalité nouvellement expérimentée chez chacun, chacune, s'est manifesté concrètement par une aide à la fois spirituelle et matérielle. C'est comme ça que Paul a découvert qu'ils vivaient ensemble un partenariat dans l'Évangile. Tout comme la communauté de l'anneau, même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez imaginer ce que va se passer dans la suite. Cette communauté s'est mise ensemble en route et a décidé de laisser tomber ses préférences, ses différences pour accomplir ce but commun. De même, les Philippiens ont saisi les opportunités en Église pour s'associer à Paul, à ses projets, à ses ambitions, s'associer à l'Évangile pour soutenir spirituellement, mais aussi financièrement, matériellement. Ils se sont mis en marche pour faire avancer cette cause qui était devenue maintenant leur essentiel. Et remarquez avec moi que Paul n'a pas eu besoin de les faire culpabiliser. Paul n'a pas eu besoin de leur mettre des coups de bâton ou des rappels tonitruants du haut de la chair. On se demande comment ça pourrait se faire dans une prison entre quatre murs. Non, pas du tout. Paul évoque deux fois la question du partenariat au verset 4 et au verset 7. Et au milieu, on a l'affirmation de ce qui est là, sa conviction de ce partenariat. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. pas de pression extérieure, mais une nouvelle expérience, la présence de Jésus-Christ qui commence une œuvre qui va avoir des répercussions jusque dans l'éternité. Jésus-Christ est partout dans l'histoire de ces Philippiens maintenant. Il a inauguré cette nouvelle vie, il soutient cette nouvelle vie et il est l'aboutissement de cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est ça qui fait que ces Philippiens ont participé à l'Évangile, qu'ils se sont mis en marche en s'associant à Paul et à sa cause. Et pour nous, si c'est ça aussi l'essentiel, si c'est cette appartenance à cette histoire qui nous dépasse tous, qui nous transcende tous, c'est ça qui est aussi pour nous la réalité d'un nouvel amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous si nous voulons ressentir ces vives affections ? Eh bien, ça veut dire qu'une cause plus petite, comme mon épanouissement personnel, un projet personnel, même vaguement rattaché à la foi, ne pourra produire cette affection sincère. Une ambition plus petite ne pourra pas nous permettre d'agrandir, de multiplier, d'augmenter notre amour les uns pour les autres. C'est comme mon enfant Colin de 9 mois essaye de faire rentrer son cube dans un seau où il y a un carré, un cercle, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Il faut quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Et seul un Dieu qui met en place une histoire tellement incroyable, tellement saisissante, seul un Dieu comme cela peut être, et son plan peut nous permettre de nous associer à un partenariat qui va produire en nous des affections particulières. Dieu dans le monde pour sauver et racheter des gens qui sont en train de se perdre. Ça, c'est l'histoire qui, une fois qu'on l'a compris, que c'est nous qui l'avons d'abord expérimenté. Et puis ensuite, que Dieu nous attend pouvoir vivre pour ce message, pour ce but commun. Une fois qu'on a saisi cela, qu'on est maintenant participants ensemble de ces réalités, alors tout ce qui faisait nos différences, nos tracas, nos soucis, nos ambitions personnelles insignifiantes, tout cela ne devient plus une cause de division, mais au contraire nous encourage à nous aimer les uns les autres. L'histoire d'hommes et de femmes qui ont été liés par Jésus-Christ dans un partenariat qui a des répercussions dans l'éternité. Voilà ce qui devrait nous donner du carburant pour nous aimer les uns les autres. Et donc, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez découragé ou déconnecté, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en rester là cet après-midi et que vous pouvez commencer à ressentir une vive affection les uns les autres et un désir de voir d'autres se joindre à cette troupe, cette communauté, non pas de l'anneau, mais cette communauté de Jésus-Christ. Priez que votre amour, votre désir de Dieu augmente de plus en plus. Car c'est ça que fait Paul à la fin. Pour que ces chrétiens de Philippi puissent comprendre ce plan, qu'ils puissent y adhérer de plus en plus, il faut que leur amour augmente. Et versets 9 à 11, il nous dit que justement c'est ce que Paul fait. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ce qui est l'essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. La vie chrétienne commence avec une rencontre, celle de Jésus-Christ, et elle termine avec ce mariage, cette vision finale de connaître celui qui nous a aimés et qui est venu pour se sacrifier pour nous racheter de tous nos péchés. Si nous avons fait cette rencontre, alors nous pouvons commencer à aimer. Nous pouvons commencer à aimer, nous pouvons commencer à prier pour que cet amour grandisse. Parce qu'il est clair que pour Paul, ce qu'on aime, ce qu'on désire réellement, influence nos choix de vie, nos décisions. Et je sais qu'en cette rentrée, nous en avons beaucoup à faire, beaucoup de décisions à prendre. Et ça, les gens du marketing l'ont très bien compris. Ça, les publicitaires le manient avec excellence depuis des années. Si je vous dis que le parfum est une senteur qui modifie l'odeur de votre corps, eh bien, il sera très improbable que j'arrive à finir la journée avec beaucoup de ventes, que je fasse un bon chiffre d'affaires. Mais regardez, si je vous montre un homme et une femme qui ont les yeux qui pétillent quand ils se voient l'un et l'autre, qui s'enlacent, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous vendre un rêve. Je suis en train de vous vendre une histoire que vous allez vous mettre à désirer, à aimer, et qui va influencer vos choix de vie. Ça, c'est ce que font les publicitaires. Quand c'est bien fait, on influence les gens, non pas en argumentant, non pas en balançant des slogans, mais en racontant une histoire. Une histoire tellement convaincante, tellement forte, qu'elle vient taper au niveau du cœur afin que les comportements, les choix de décision s'en trouvent modifiés. Et ne soyons pas naïfs. Hein. Certains groupes, certaines associations l'ont très bien compris. Ils utilisent les mêmes recettes, alors que ce qu'ils enseignent en réalité est juste là pour chatouiller les oreilles. C'est un beau packaging, ça a l'air attrayant. Ça, les gens qui l'utilisent ont le sourire, la banane, alors qu'en fait, il n'y a rien. De même, on est actuellement dans une économie dite de l'attention. Il y a des gens qui veulent faire augmenter leur chiffre d'affaires en utilisant des temps de disponibilité de votre cerveau, en vous montrant régulièrement des images de choses à désirer. Et ils savent comment faire pour nous garder dans leur économie. Une économie de l'attention où on est toujours stimulé au niveau de nos désirs, de notre rêve, une histoire captivante qui va vendre et qui va nous faire choisir des choses au détriment d'autres. Et donc si c'est les désirs, si c'est l'amour qui est au cœur de nos futurs choix, le seul moyen de s'en prémunir pour vous et moi, c'est que notre amour pour cet essentiel grandisse encore et encore et encore et toujours plus. Parce que c'est cet amour, d'après Paul, cet amour qui connaît vraiment, qui perçoit les choses importantes et qui va nous faire vivre une vie pure et irréprochable, rempli d'un bon fruit pour la gloire et la louange de Dieu. Oui, la bataille de vos choix en cette rentrée ne se passe pas au niveau juste de la connaissance intellectuelle, mais ça se passe au niveau de nos affections, de nos désirs. Et Paul voudrait que notre amour soit bibliquement informé, afin que nous fassions les beaux choix, des choix qui visent l'essentiel. Et quand Paul dit ici l'essentiel, en fait, il dit aussi qu'il s'agit des choses les meilleures. Et quand il dit de choisir les choses et les meilleures, il va nous introduire une catégorie qui est bien souvent absente dans nos églises. La catégorie mentale absente dans nos églises, c'est que bien souvent, en fait, on pense que la vie chrétienne, ce sont des choix bons et des choix mauvais. Et que la Bible nous a fait simplement à faire des choix qui plaisent à Dieu et de rejeter ce qui ne plaise pas à Dieu. Est-ce que je dois aimer, honorer mes parents? Oui. Est-ce que je peux regarder de la pornographie? Non. Est-ce que je peux détester des gens dans mon église? Non plus. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Quand Paul parle de discerner les choses et les meilleures, il présume que les Philippiens ils sont déjà embarqués dans cette grande histoire où ils font faire naturellement la distinction entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas. Là, il nous présente une troisième catégorie. La catégorie qui consiste à, parmi tout plein de choses qu'on pourrait choisir et qui sont bonnes et légitimes, quelles sont celles qui vont maximiser la renommée de Dieu? Quelles sont celles qui vont montrer davantage que l'Évangile est bien l'essentiel? Et voilà tout un tas de questions qu'on peut se poser. Quelles sont, parmi ces deux activités qui me sont proposées en ce début d'année, celles qui va avoir le plus d'impact dans l'éternité? Ces deux choix, ces deux activités sont bonnes et il n'y a rien d'immoral dans aucune des deux. Mais là, la catégorie qui nous est proposée, c'est que, étant donné qu'on progresse, qu'on a un amour grandissant, quelle est celle qui va maximiser la gloire de Dieu? Comment je peux gérer davantage mon temps, mon argent, mon énergie mentale pour prendre des décisions au quotidien qui vont motiver l'essentiel? Et cet été, je vous avoue que j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que je peux encore progresser dans ce domaine-là, qu'il y a des lectures, des choses que je regarde, des dépenses que je fais avec mon argent qui en fait ne sont pas mauvaises en soi, mais à y réfléchir, avec mon amour qui grandit pour Jésus, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de meilleur encore à vivre, à expérimenter? Alors c'est encore trop frais dans ma tête, c'est encore trop frais dans mon esprit, donc je ne vais pas vous dire tout de suite, mais j'espère juste que dans les semaines, les mois à venir, je vais arriver à en mettre en place des changements dans ma vie pour vivre les choses que je dis être l'essentiel. Des choses qui vont avoir un impact jusque dans l'éternité. Et donc, j'ai besoin, comme chacun d'entre nous ici, cet après-midi, de prier cette prière, que notre amour grandisse, parce qu'au final, c'est ce que j'aime vraiment qui va remporter la victoire dans mon esprit et dans mes choix. Et ce que je vais vivre ne va être finalement que le reflet de ce qui est au centre de mon cœur. Quand on aime, on ne compte pas. Est-ce qu'on a envie de se dépenser cette année? Est-ce qu'on est prêt à continuer d'être cette communauté unis, engagés pour un projet qui nous dépasse tous, que des gens entendent la grande histoire, celle qui a commencé dans nos cœurs, de la rencontre avec Jésus-Christ qui va durer jusque dans l'éternité. Avons-nous réellement capté ce qui est essentiel et qui transparaîtra au jour de Jésus-Christ? Seul un amour grandissant, puissamment ressenti et vécu pour Jésus et son évangile peut renforcer notre partenariat pour les autres et notre désir commun de voir Christ davantage rayonner ici à Grenoble. Et c'est avec cette pensée que j'espère, résume ces 11 premiers versets de Philippiens que je termine et j'aimerais vous inviter à la prière encore une fois. Si quelques-uns veulent se joindre à ce temps de prière, sentez-vous libre de le faire, que ce soit dans votre cœur, à haute voix. Merci de prier de telle façon qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse s'associer à cette prière. Ô notre Dieu, notre Père, quel souvenir incroyable de Paul, et de ces Philippiens qui s'expriment dans cette vive affection qu'ils ont les uns pour les autres. Et je prie que ce soit aussi notre expérience ici à l'église Grenoble-Est, que quand les gens nous voient, nous entendent, nous fréquentent nos temps de vie particulière, ils puissent voir aussi cette vive affection, cette tendresse qui est un résultat du partenariat que nous avons dans l'Évangile. Que nous puissions, cette année encore, avoir la chance de pouvoir réexpérimenter, si on se sent loin, ou simplement être renouvelé de ce qui est l'essentiel, de ce qui est le plus important, de ce qui va durer et ne jamais cesser dans l'éternité pour toi. Amen.